On dit pas mal de mauvaises choses en ce moment, avec la propagande politique ou électorale sur le système bancaire, sur la finance. Mais figurez-vous que j'ai trouvé un banquier généreux. Et ce banquier m'a dit qu'en fait, il était prêt à vous donner 218 euros tous les jours. Pas mal. On commence à pouvoir faire des choses avec 218 euros par jour. Et en plus, il m'a dit qu'en fait, tous les matins, votre compte allait être crédité de ces 218 euros. Et ça, même aujourd'hui, même le dimanche, même les jours fériés, ou même pendant vos vacances, vos RTT ou vos jours de congé. Et ce banquier est en fait si généreux qu'il a décidé de donner cette somme à toute personne vivant sur la Terre. 218 euros pour tous, tous les jours. Ça, c'est un programme qui devrait faire élire le candidat qui aura un tel banquier. Et en plus, il n'y a pas de restriction de race, de sexe, de nationalité, d'âge, d'opinion politique ou même religieuse. Il n'y a pas de favoritisme. Les gens les plus riches qui doivent payer l'ISF, comme les gens les plus pauvres qui sont à la merci des aides de l'État, chacun reçoit ses 218 euros. Mais, aussi généreux soit-il, il y a des restrictions. La première, c'est qu'il n'est pas possible d'accumuler d'un jour sur l'autre. Autrement dit, cette somme de 218 euros, elle doit avoir été dépensée dans la journée, et tout ce qui n'a pas été dépensé dans la journée est perdu le lendemain. Alors je vois, il y en a qui disent, mais c'est pas grave, je prendrai un crédit, comme ça je pourrais rembourser avec ces 218 euros. Si on a des comptables ou des banquiers, on doit pouvoir emprunter pas mal avec 218 euros par jour. Mais rien n'arrête sa générosité. Le lendemain, si vous êtes vivant, votre compte en banque est encore crédité de 218 euros et vous avez à les dépenser dans la journée. Alors, après les avoir perdu un peu de cet argent, je suis sûr maintenant que vous allez les utiliser à bon escient et que vous allez être certain qu'il n'y a pas d'argent qui traîne sur votre compte. Alors, ça représente quand même une belle somme. Par mois, ça fait à peu près 6 500 euros. C'est un bon salaire, ça. Par an, c'est près de 80 000 euros. Alors, je ne sais pas si on doit payer l'ISF dans les programmes des candidats, mais avouez que ce serait formidable. Alors, ça peut paraître comme un conte de fées. Mais si vous remplacez les euros par des francs, les 218 euros, ça représente 1440 francs tous les jours. Et en fait, ce banquier si généreux, vous savez qui c'est ? C'est votre Père Céleste dans les cieux. Il ne vous donne pas des francs, il vous donne quelque chose de bien plus précieux. Il vous donne 1440 minutes par jour. 24 fois 60. Mais c'est la même chose. Vous ne pouvez pas accumuler, vous ne pouvez pas attendre. Le temps poursuit sa marche inexorable. Et souvent, qu'est-ce qu'on dit ? On dit « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps, mais nous avons tous la même quantité de temps confié chaque jour par Dieu. Et la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces 218 euros de temps, ces 1440 minutes, 1440 francs, 1440 minutes tous les jours. C'est Charles Spurgeon qui disait qu'en fait, on ne peut pas penser qu'on arrête le temps et qu'on soit immobile. C'était le poète Lamartine qui disait « Autant suspend ton vol ». On aimerait des fois dire « Stop !» quand les choses vont bien. Mais il continue en disant que « À chaque instant, le pouls de votre battement de cœur, votre pouls, c'est comme le rythme d'une marche funèbre vers votre fin terrestre. » Pas très gai, hein ? Mais il ajoute, vous êtes comme enchaîné au chariot du temps qui roule sur la route. Et il dit, il n'est pas possible de ralentir les chevaux, ni de sauter du chariot. La parole de Dieu a beaucoup à dire sur le temps qui passe. Je vous rappelle que nous sommes dans une petite série en dehors d'un livre de la Bible que nous étudions verset par verset. Nous avons voulu faire une petite série d'études sur les disciplines de la vie chrétienne. On a dit qu'en fait, on aimerait bien, tout autant qu'on est, si on est là, c'est sans doute qu'on aimerait bien croître, on aimerait bien grandir dans la vie chrétienne. J'espère que tous, on sera plus des disciples de Jésus dans un an qu'on ne l'est aujourd'hui, dans une mesure ou dans une autre. Et on a vu que les disciplines de la vie chrétienne, c'est la façon dont on s'efforce de marcher selon les préceptes du Seigneur. On a vu que parmi ces disciplines, il y a l'ingestion de la parole de Dieu. On verra la prière. L'ingestion de la parole de Dieu, c'est lire la parole, la mémoriser, la vivre. Mais chaque jour, nous devrions tous, autant que nous sommes, recevoir la parole. Tout ce temps que nous sommes, nous devrions prier tous les jours. Un des grands pasteurs que je respecte beaucoup, John Corson, quand il doit donner un conseil, il dit simplement « Lisez votre Bible et priez chaque jour ». Des fois, on veut lire des livres très profonds sur des aspects de la vie chrétienne, et puis on oublie l'essentiel de se nourrir de la parole et de respirer par la prière. En ce moment, il y a une étude vraiment formidable sur la prière faite par le papa de Mickey, Newberry, Yann Newberry, qui a un ministère sur la prière. Et c'est dommage, on est que quelques-uns à suivre ce cours. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais parler, c'est de la gestion des ressources. Dieu nous donne des ressources et il nous considère comme des serviteurs, comme des intendants qui avons la responsabilité de ces ressources. Qu'est-ce que c'est qu'un intendant ? Essentiellement, c'est une personne qui est chargée d'administrer les biens de quelqu'un qui ne lui appartient pas. Ça peut être un gérant, il y a d'autres termes, on parle de gérant, d'administrateur, de gouvernant, de mandataire, de tenancier, de gestionnaire, d'exploitant. Même pour le monde agricole, il y a le terme de métayer. La ferme n'appartient pas à la personne, mais le métayer la gère au mieux de ses capacités. Et dans l'Ancien Testament, dans la Bible, on a beaucoup d'exemples de serviteurs fidèles et de serviteurs infidèles. Un exemple de serviteur fidèle, c'est bien sûr Joseph, qui était l'intendant de Potiphar, ce haut fonctionnaire du Pharaon, et qui a terminé par être l'intendant, le gérant, le premier ministre de l'Égypte entière. Les ressources à gérer, aujourd'hui on va parler un peu du temps, mais il n'y a pas que le temps. Le temps, Vous êtes d'accord, il ne nous appartient pas. Une autre ressource très importante pour laquelle Dieu nous appelle à être les meilleurs gestionnaires possibles, c'est l'argent. Votre argent, vous êtes peut-être réalisé, il ne vous appartient pas. Il peut arriver, il peut repartir, il peut avoir des ailes. Et tant que vous n'avez pas réalisé que c'est Dieu qui vous le donne complètement, vous n'avez rien compris. Et vous allez avoir tendance à mal gérer votre argent si vous pensez qu'il est, il est à moi. C'est moi qui l'ai gagné. Maintenant, avec la crise du chômage, on s'aperçoit que pouvoir gagner de l'argent, c'est un privilège, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est le fait de pouvoir travailler et d'être rémunéré qui est un cadeau de Dieu. Donc il y a l'argent à gérer. Et puis il y a aussi ce que vous faites des dons et des talents que Dieu vous donne. Vous pouvez avoir des capacités, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine pratique, dans le domaine artistique, dans le domaine des capacités intellectuelles. Si Dieu vous a donné des ressources, encore une fois, ce n'est pas vous qui les avez fabriquées à partir de rien. Il exige de vous que vous les gériez du mieux possible. Nous aurons à rendre des comptes, on y reviendra. Et dans notre société, ce qui est intéressant, c'est que, tout spécialement en période électorale, c'est qu'on pense que la solution à tous nos problèmes, c'est davantage de ressources. C'est davantage d'argent, c'est davantage d'impôts pour les gouvernants. Et nous, c'est davantage de salaires, c'est davantage d'indemnités, c'est davantage d'acquis sociaux. En fait, on n'a rien compris. Le problème, ce n'est pas la quantité de ressources sur laquelle on peut jouer, parce que nous vivons dans un monde fini et on n'a pas de pétrole. On essaie d'avoir des idées, on n'en a plus tellement. Mais c'est beaucoup plus important de savoir gérer que d'avoir plus. On peut avoir beaucoup plus et être misérable. Et des fois, le Seigneur sait que j'aurai du mal à gérer un revenu de 218 euros tous les jours. Comment je le dépenserai? Est-ce que j'irai voir des conseillers qui m'en prendraient la plupart? C'est pas beaucoup, 218 euros par jour. Ça fait 80 000. Pour nous, la plupart d'entre nous, c'est beaucoup. Mais dans le monde du business, dans le monde des affaires, dans le monde des cadres supérieurs, c'est pas grand-chose, malheureusement. Et donc, il faut savoir gérer nos ressources de temps. On va parler du temps aujourd'hui. Et il y a beaucoup de passages qui parlent de ce problème de la gestion du temps. Jacques, par exemple, nous dit au chapitre 4, versets 13 et 15, qu'au lieu de faire des projets avec assurance, il dit « Nous devrions nous rappeler qu'on ne sait pas ce qui se passera demain et que nous sommes de la vapeur, comme de la vapeur d'eau, qui apparaît pour un peu de temps et puis qui se dissipe ensuite. » Et il nous dit, quand vous faites des projets, dites, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent être spirituelles en n'osant jamais dire, bon, ben, la semaine prochaine, on fera ça. Et j'ai tendance à dire, Dieu voulant, je serai à Ziegen pour la conférence. Et en fait, la semaine dernière, je disais ça, et bien m'en a pris parce que je me suis retrouvé à la conférence beaucoup plus tard que je pensais. Pourquoi ? Parce que j'avais réservé très à l'avance un vol pour le lundi, pour me permettre d'être là le mardi midi quand ça commençait. Et lorsque je me suis présenté à l'aéroport, j'ai pas trouvé l'embarquement de Germanwings. J'ai pensé que peut-être c'était parce que j'étais juste à la limite et qu'ils avaient déjà fermé le comptoir Vous savez, maintenant, ils allument une lumière ou ils mettent un projecteur et ça devient Germanwings ou Iberia ou Air France. Ils peuvent changer un endroit en un stand de n'importe quelle compagnie aérienne. Et en fait, je me suis renseigné, on m'a dit, mais il n'y a pas de vol aujourd'hui de Germanwings. Je dis, mais regardez, pourtant j'ai ma réservation. Et en fait, ils m'ont appris que depuis le mois d'octobre, Germanwings ne vole plus le lundi vers Cologne. Le vol n'a pas été annulé, le vol a été supprimé. Alors ils ont gardé un peu mon dossier, mon numéro était toujours dans leur ordinateur, Dieu merci. Ils m'ont dit, mais on vous a envoyé un courrier le 15 octobre pour vous dire qu'on vous avait déplacé sur le vol de dimanche dernier. J'aurais dû partir à cette heure-ci, dimanche dernier. Ils ne m'avaient pas... Alors d'abord, le mail était en allemand. Et j'ai pensé que c'était un des courriers qu'on reçoit, qui confirme, parce que j'avais remarqué que c'était bien janvier, j'avais oublié exactement la date. Et en plus, j'étais quand même surpris qu'ils n'attendent pas d'avoir mon feedback, que j'ai rien à dire, le fait qu'ils me faisaient partir pendant le sermon. Mais le résultat, c'est que j'étais avec Bob. Il m'a vu à l'aller, puis il m'a vu au retour dans le même bus. Il allait accompagner une amie à l'aéroport. Et en fait, j'ai bien fait de dire, Dieu voulant, je serai à Siegen, parce que de toute évidence, Dieu n'a pas voulu que je sois à Siegen au début de la conférence. Il a préféré que je sois ici. J'ai pu faire quelques activités. J'ai pu me retrouver à la réunion du mardi matin où on a été surpris de me trouver. J'ai même pu assister à l'enseignement de Tonio le mardi soir sur l'Apocalypse. Et donc, en fait, le temps, nos projets, on doit vraiment réaliser que c'est Dieu qui contrôle notre temps. C'est Dieu qui nous donne du temps. Et surtout, Dieu, lui, il est en dehors du temps. Donc, il voit tout. Un autre grand passage qui parle du temps, c'est le psaume 90. On va pas l'étudier. Mais c'est dans ce passage qu'il dit, « 1000 ans à tes yeux », le psalmiste dit à Dieu, « 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. » Dieu, il n'est pas limité par le temps comme nous le sommes. Il dit au verset 5, « Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. » Les instants de notre vie sont limités. Il est même assez pessimiste. Il dit, nos jours déclinent par ton courroux, nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Puis il dit, ça c'est pour les compagnies d'assurance, le nombre de nos années s'élève à 70 ans et, si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. En moyenne, 70 ans. Ça veut dire qu'en moyenne, moi, il me reste 7 ans à vivre, à partir du 1er février. Qu'est-ce qu'on fait en 7 ans? Qu'est-ce qu'on fait si on savait que demain, on s'en va? Verset 12 de ce psaume 90, on verra un autre passage. « Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. » Ne gaspillons pas le temps qui nous est donné, confié par Dieu. Il dit même, il faut faire compter chacun de ses jours pour l'éternité, avoir les bonnes priorités. Paul nous dit dans Éphésiens 5, 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Autrement dit, profitez de chaque moment qui passe, pour faire des bonnes choses en vue de l'éternité. Il y a ce petit proverbe qui dit, ou devise qui dit, « Une seule vie à vivre, bientôt passée. » seul ce qui pour Christ est fait ne sera pas effacé. On va regarder un autre passage qui nous exhorte aussi à bien passer le temps. C'est dans Luc, si vous voulez vous tourner avec moi, dans Luc 12. Et on va lire ensemble à partir du verset 35. « Mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivera trouvera veillants. En vérité, je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille et les trouve ainsi heureux, sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole, c'est-à-dire à nous qui sommes les disciples, les apôtres, ou bien à tous ?» Et le Seigneur répond par une question, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens de service pour leur donner leur ration de blé au moment convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivera trouvera occupé de la sorte. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura rien préparé et qui n'aura pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Donc, dans ce passage, il est question d'intendant et on voit des leçons pour nous. L'intendant qui est fidèle est comparé au serviteur infidèle, au mauvais serviteur, ça c'est les versets 45 à la fin. Et on peut trouver des raisons pour lesquelles il est très important de gérer notre temps selon les prescriptions de Dieu. Une des premières raisons pour laquelle il faut être prêt, c'est ce que ça veut dire mettre une ceinture à vos reins. Peut-être vous dites, mais j'ai toujours une ceinture, je ne porte pas de bretelles. C'est pas ce que veut dire le texte. Le texte, ça veut dire être prêt à l'action. À l'époque, on avait des toges, des vêtements qui tombaient jusqu'aux pieds. Et si on voulait agir, si on voulait courir, il fallait qu'on redresse la robe, les pans de la robe et qu'on les attache avec une ceinture afin d'avoir les jambes prêtes à marcher, à courir, à servir. Et puis une autre façon de montrer qu'on était prêt, c'était d'avoir des lampes prêtes. On a un système automatique ici dans l'église. Vous avez remarqué qu'il y a eu une surcharge, quelqu'un a branché un chauffage supplémentaire à un endroit où il ne faut pas le faire. Et ça a causé une surcharge du système et les lampes se sont éteintes. Mais on a des petites lumières qui sont prêtes à donner un peu assez de lumière pour qu'en cas de danger, vous puissiez trouver la sortie. Ce sont les blocs autonomes d'électricité de secours, les BAES. Et j'ai fait une chute. Il m'a causé une fracture de l'os en vérifiant justement, en voulant changer une de ces lampes. J'ai voulu que les lampes soient préparées. Ce pas une justification pour ma bêtise, mais l'idée, donc, c'est d'être prêt à l'action. Pourquoi ? Parce qu'un sage usage du temps, c'est de penser au futur. Un sage usage, un usage sage, essayez de le répéter 10 fois de suite, un sage usage, usage sage, c'est de se préparer pour le vrai futur. Le vrai futur, c'est pas dans 2 mois. Le vrai futur, c'est l'éternité. Il est bon de réaliser que l'éternité, elle se prépare de ce côté de l'éternité. La plupart de nos contemporains, on est très soucieux de la retraite, de l'âge de la retraite, mais généralement nos préoccupations, elles se terminent avec un mur, avec une compagnie de pompes funèbres. La plupart de nos contemporains ne veulent pas penser à ce qu'il y a au-delà de la mort. Ah, ils veulent savoir ce qui se passe après 60 ans, après 62 ans, après 67 ans. Ils veulent être certains qu'on va leur verser une pension, et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il y a un blackout, il y a un voile, on refuse de penser. Et je vous engage à faire réfléchir les gens à l'éternité. Parce que le sentiment de l'éternité, sachez qu'il est dans le cœur de chaque homme. Pourquoi je vous le dis ? Parce que la parole le dit. Ecclésiaste 3:10. Dieu a mis dans le cœur de tout homme, dans le cœur de l'homme, le sentiment de l'éternité. Les gens prétendront que non, il n'y a rien après. Il n'y avait rien avant, il n'y a rien après. Mais c'est faux. Au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'il y a quelque chose. Si vous avez jamais vu la dépouille d'un être cher, des fois maintenant dans les enterrements, on peut des fois voir le visage, la personne, avant que le fermeuil ne soit refermé, le cercueil ne soit refermé. C'est pas une expérience plaisante, mais c'est une expérience très instructive. Parce que lorsque l'on voit la dépouille de l'être cher, on ne peut pas croire que toute la personne est là. On sait qu'il y a quelque chose qui est parti. On sait qu'il y a il y a autre chose. On ne peut pas prétendre le contraire. Sinon, c'est qu'on est de mauvaise foi. Et donc, ce sentiment d'éternité doit nous inciter à utiliser notre temps avec la plus grande des sagesses. Paul disait, voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. Lorsque vous parlez de Dieu à vos amis, à vos parents, et qu'ils vous disent, oh, j'ai bien le temps, je verrai quand je serai malade, quand je serai vieux, quand je serai à la retraite. Vous pouvez leur dire non, le moment pour l'éternité, c'est maintenant. Le sage usage du temps, c'est de penser dès maintenant à l'éternité. On ne peut pas se préparer une fois qu'on est mort. On ne peut pas compter sur les prières de nos familles une fois qu'on est au purgatoire. Le purgatoire, c'est une invention religieuse qui n'a aucun fondement biblique. Il y a des textes, soi-disant des textes apocryphes, des textes qui ne sont pas reconnus comme saints, qui parlent peut-être de ça. Mais on ne peut pas faire dire des messes pour nos défunts. C'est maintenant qu'il faut leur dire, c'est maintenant qu'il faut dire à vos êtres qui vous sont chers, à vos voisins, à vos amis, à vos parents, qu'il faut se préparer. Personne ne sait l'heure, mais on y reviendra. C'est drôle d'habitude, je suis toujours un peu à la bourre pour me préparer pour les voyages en avion. J'aimerais bien des fois avoir une valise, une petite valise avec le juste nombre de vêtements, de rechange, en fonction du temps qu'il fait là-bas, savoir, on devrait faire un programme informatique, une petite application iPhone, iPad, pour pouvoir facilement préparer. C'est bien tombé parce que j'étais à la bourre lundi, puis je suis rentré à la maison, j'ai eu 2 jours pour me préparer. Mais on ne sait pas si on aura 2 jours pour se préparer. Amos, le prophète Amos disait « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Puis ce n'est pas le tout simplement d'être sauvé. On dit « Mais j'ai prié la prière, je me suis avancé à l'autel quand il y a eu un appel du pasteur ou de l'évangéliste. » Et il m'a promis que si j'acceptais le Seigneur Jésus dans mon cœur, alors j'étais sauvé, j'avais plus de soucis à me faire. C'est vrai théologiquement, mais est-ce que vous êtes vraiment avancé? Est-ce que vous avez porté quelques fruits qui montrent que cette réponse à l'appel de Dieu était authentique? Si vous avez dit oui, mais que vous avez continué à vivre comme avant, sans égard pour Dieu et sa volonté, alors vous pouvez vous poser des questions. Et puis de plus, la Bible nous dit que la vie future, la vie dans l'éternité, elle va aussi dépendre de notre vie ici-bas. On va tous être au paradis, mais on va avoir des responsabilités, et en fonction de ce qu'on aura, la façon dont on aura été fidèle ici à l'appel de Dieu, va dépendre un certain nombre de choses dans l'éternité. Alors vous dites peut-être, moi ce qui compte, c'est d'être sauvé, je suis d'accord avec vous. Mais ce serait regrettable de se dire qu'en fait, si j'avais été plus sérieux dans ma vie chrétienne, j'aurais peut-être des responsabilités, je pourrais servir Dieu. Parce que notre désir, quand on va le voir tel qu'il est, la Bible nous promet qu'on sera comme il est, mais on va vouloir l'aimer en le servant. Peut-être il va nous dire, je ne sais pas, ça c'est pas dans la Bible, mais peut-être il va nous dire, oui, mais tu peux là, mais tu ne peux pas aller dans cette position. Ou... Peu importe, sachez que c'est de ce côté de l'éternité que votre éternité se prépare. Ça, c'est une première raison pour laquelle il faut gérer notre temps avec sagesse. Regardez, dans cette petite parabole de Jésus, il dit « Heureux les serviteurs que le maître à son arrivera trouvera veillant. » Et il dit quelque chose d'absolument étonnant. En fait, il va se revêtir un habit de serviteur pour servir. Il va les mettre à table, il va s'approcher d'eux pour les servir. Waouh ! On avait parlé d'un jardinier d'une très belle villa à Villefranche-sur-Mer, une de ces grandes villas qui coûte des centaines de millions d'euros. Et un pasteur connaissait ce jardinier, il parlait souvent avec lui, il lui disait « Mais est-ce que tu sais quand tes patrons vont venir ?» Parce que sinon c'est tranquille, hein, regarde la vue que tu as, c'est tranquille, il n'y a pas un chat à 2 kilomètres, à 1 kilomètre à la ronde, c'est une grande propriété. Et le gars lui disait, non, le maître, mon propriétaire, ne me dit pas quand il va venir. Mais il me dit que la maison doit toujours être en état pour que, quand il arrive, tout soit prêt, que les fleurs dans le jardin soient bien entretenues, qu'il y ait de la nourriture dans le frigidaire, que les lits soient faits, prêts à le recevoir. Et c'est ce que Jésus nous dit, s'il trouve des serviteurs comme ça, alors c'est comme si le maître va arriver et va dire, hey, jardinier, viens, je vais te servir. C'est incroyable. Mais c'est ce qui est dit dans cette parabole. Une deuxième raison pour bien gérer notre temps, je dis notre temps, c'est le temps qui ne nous appartient pas, mais qu'on doit gérer. Encore une fois, c'est 1440 minutes tous les jours. Comment est-ce que je les gère? Une raison pour laquelle on doit le faire avec le plus grand soin, la plus grande consécration, c'est qu'on n'est pas sûr du temps qui reste. Le temps qui reste n'est pas certain. Là, ils doivent être prêts pour la première veille. La nuit était divisée en trois ou quatre veilles, trois selon la coutume juive, quatre selon la coutume romaine. Et ils sont prêts pour la première veille, mais s'il arrive à la deuxième ou la troisième veille, heureux aussi sont-ils, bénis sont-ils. Nous ne savons pas quand Jésus va revenir. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il peut nous appeler par la mort, notre mort, à nous retrouver en sa présence. Et ça, c'est valable pour vous tous, que vous ayez 5 ans, 2 ans, 1 an, 63, 70, peu importe. On a pas mal de jeunes et on s'en réjouit. Et beaucoup de jeunes pensent que c'est pour plus tard. J'ai la vie devant moi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quelle formation vais-je suivre? Quel métier vais-je embrasser? Quelle personne vais-je épouser pour ma vie future? Mais en fait, et malheureusement, on en a déjà fait l'expérience, du jour au lendemain, quelqu'un de 19 ans peut être rappelé au Seigneur. Vous vous souvenez de notre frère Béranger? Il y a quelques années, un jeune qui était plein de zèle, de joie de vivre et plein de zèle pour le Seigneur, qui aimait le Seigneur comme tout. Il est parti avec des copains pour se baigner du côté de Saint-Égulphe, ou hier, Saint-Égulphe, peu importe. Il n'est jamais revenu. Le lendemain, le soir même, on s'est retrouvé dans l'incrédulité. Mais c'est pas possible. Il est trop jeune pour partir. Il y a pas de. Dieu n'a. Encore une fois, le temps. Vous savez pas combien il vous reste de temps. Surtout si vous avez une moto. Je dis ça parce que je pense à ce jeune homme qui, lui aussi, s'est tué. Il allait essayer une nouvelle moto, il n'est jamais revenu. Ça, c'est pour notre départ, mais le retour de Jésus, il y en a certains, on a entendu parler des Mayas, du calendrier Maya, le 21 ou le 22 décembre 2004, c'est la fin du monde. On a déjà parlé de ça. Jésus a été très clair. Il nous dit qu'on doit pouvoir détecter les signes des temps, les rumeurs de guerre, les tremblements de terre, les problèmes dans le monde. Ça doit nous indiquer que la fin est proche, mais c'est pas pour autant que l'on puisse dire c'est en 2013, en 2014, en 2011. Dans Matthieu 24, 36, il est dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » C'est curieux. Le Fils, dans son humanité, ne savait même pas quand il allait revenir. On peut penser que maintenant qu'il est remonté à la droite du Père, il sait l'heure et le moment, mais il ne l'a pas communiqué. Il disait à ses disciples, il demandait « Alors, c'est quand le règne ? Tu vas être élu, là, et puis on va pouvoir être au gouvernement, là. Hein ?» Et il leur dit « Occupez-vous de vos affaires. » Il ne le dit pas aussi abruptement. Il dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Je crois qu'on en a déjà parlé. Je crois que Dieu veut qu'on ne sache pas l'heure. Sinon, on procrastinerait. On dirait « Oh bon, c'est le 21 décembre 2012. Ça me laisse un peu de temps. Je vais pouvoir aller faire la fête. Et puis vers le mois d'août, peut-être, je vais commencer à revenir à l'église, à aller suivre les études, à prier tous les jours, à lire ma parole, la parole de Dieu. » Peut-être que vous êtes comme moi et vous avez tendance à procrastiner. Alors pour justifier, vous dites « je travaille bien sous pression ». Ça, c'est une belle excuse. Hein. « Je travaille bien sous pression parce que quand l'heure arrive, j'ai plus d'autre option et je dois m'y mettre. Je vais dormir quelques heures par nuit parce que j'ai trop tardé à commencer mon projet, ma thèse, mon sermon, que sais-je encore. Et ça, si on sait qu'il y a une heure, on peut avoir cette tendance à procrastiner, à bachoter pour les étudiants. On essaye d'ingurgiter en 4 jours ce qu'on aurait dû apprendre progressivement en 6 mois. Alors on fait le principe de l'éponge. On essaye d'absorber le maximum. Et puis on presse bien pour essayer de ressortir le maximum. Et puis après, il n'y a plus rien. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on a étudié. Je vois quelques sourires. Je reconnais les vrais étudiants. Une autre raison, c'est que on ne sait pas ce que demain va amener. On n'est pas prêt aujourd'hui et on pense que on va pouvoir se préparer plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il dit, verset 39, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Généralement, quand un voleur vient chez vous, il ne vous envoie pas de SMS, ni de message sur Facebook, ni d'email, ni de coup de téléphone, parce qu'il sait bien que si vous le saviez, vous l'attendriez ou vous prendriez vos dispositions, vous feriez passer une patrouille de police ou que sais-je. On ne sait pas à quelle heure le voleur doit venir, et Jésus nous dit que quand il va venir, ça va être comme un voleur, sans prévenir. Et il dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et on a déjà fait la remarque, est-ce que vous pensez que Jésus va arriver avant 10 minutes? C'est difficile des fois d'imaginer. Waouh! S'il y en a qui veulent peut-être avoir moins de béton à traverser, ça sera peut-être mieux d'aller dans la rue. Pourrait monter, être enlevé avec l'Église, par Jésus, sans avoir à vous fracasser la tête. Mais je crois qu'on aura pas mal. On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est probablement dans 10 minutes, parce que si c'est un moment où vous n'y attendez pas, tu t'y attends pas, boum. On ne sait pas. Si vous êtes nouveau chrétien, on va commencer dans quelques semaines un cours pour les nouveaux chrétiens. Ça se passera le dimanche pendant le culte. Et vous allez recevoir un peu d'instruction. Peut-être, on va dire, en gros, 1 heure. Si vous avez soif d'écouter la parole et vous venez à l'enseignement du mardi soir, là, vous recevrez peut-être 1 heure, 1 heure et demie. 1h20 d'enseignement. Si vous êtes plus ancien chrétien et que vous venez écouter le sermon, vous recevez 1 heure de à peu près 50 minutes, 1 heure d'enseignement. Donc en gros, si vous êtes vraiment engagé, vous venez le dimanche et en semaine pour recevoir un enseignement. Vous pourriez venir le mardi matin, on regarde un peu aussi la parole. Mais disons en gros, vous allez avoir 2 heures d'études dans la parole, et en un mois ça va représenter une dizaine d'heures au maximum. Par contre, si vous décidez, comme certains de nous ont pu le faire, ont eu la joie de le faire, d'aller dans un endroit où on vous forme pour le Seigneur, une école biblique ou une école de disciples, là, vous allez recevoir 5 à 6 heures d'enseignement par jour. Donc, ça veut dire qu'en un mois, vous allez recevoir, on va dire 20 jours, 6 heures, 120 heures d'enseignement biblique sérieux. Si vous recevez 10 heures par mois, il va vous falloir un an, 12 fois 10, 120 heures pour recevoir la même quantité d'enseignement, sans doute moins suivi, sans doute moins appliqué. Et par contre, on nous dit qu'en France, en moyenne, vous regardez la télé 3h30, 32 pour être exact. Peut-être vous dites, ben, je vais essayer de couper 2 minutes. Alléluia. Et on dit, j'ai pas le temps d'étudier, j'ai pas le temps de venir le mardi soir étudier la Bible. Je suis fatigué, on a tous des bonnes raisons. Et c'est pas, l'idée n'est pas de culpabiliser, l'idée est de vous faire réfléchir, de vous faire réaliser que vous êtes responsable de la gestion de temps que Dieu vous donne. Les jours sont mauvais, ça c'est une autre raison. On vit dans un temps où, comme le disait Paul, rachetez les gens car les jours sont mauvais. Jésus disait, il faut, dans Jean 9, 4, il faut travailler tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. On ne peut pas remettre au lendemain notre engagement chrétien. Encore une fois, lorsque le maître revient, il va donner du travail. Il va chercher quelqu'un de fidèle à qui il va pouvoir donner du travail, quelqu'un qui va être capable de nourrir, donner de leur ration de blé au moment convenable aux gens de son service. Et encore une fois, heureux ce serviteur que son maître trouve occupé de la sorte. Et il explique qu'en fait, les jours sont mauvais parce que si on se dit que le maître tarde à venir, verset 45, alors à ce moment-là, on se laisse aller à notre vieille nature. On ne prie pas autant, on ne cherche pas à être redevable de nos péchés, de nos attitudes avec un frère, une sœur ou un petit groupe. Et on va se mettre à battre les serviteurs, les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, à faire la fête, égoïstement. Et ça aussi, c'est un grand signe. Si vous êtes égoïste et qu'en fait, vous ne pensez pas à l'éternité, vous gérez sans doute très mal votre temps, vous n'avez pas idée de ses priorités. Et une autre raison, c'est que on va avoir des comptes à rendre. Quand le maître va revenir, il va servir comme un serviteur ses serviteurs qui sont restés fidèles. Mais là, il est dit qu'il va mettre en pièces, il va leur faire partager le sort des infidèles. Il va leur faire ce qu'ils ont fait aux gens qu'ils n'ont pas servi. Il y aura une responsabilité plus grande pour ceux qui connaissent la parole, ceux qui ont reconnu sa volonté, qui ont mal agi. Ils seront battus plus sévèrement. On demandera plus à celui à qui on a beaucoup confié. Une raison aussi, c'est que le temps que nous avons ici, il peut se transformer en une valeur infinie dans l'éternité. Ces gens qui ont été fidèles, ils vont se retrouver à servir les autres dans l'éternité à des postes de responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, la façon dont je gère le temps que j'ai pour je ne sais pas combien de temps, ici-bas, il peut se transformer en investissement pour l'éternité. C'est vrai pour l'argent, c'est vrai pour le temps. Je peux en 5 minutes parler à mon frère physique, naturel, je veux dire, à un membre de ma famille, à un collègue, à mon coiffeur, je peux prendre quelques minutes pour lui parler des réalités spirituelles dont je suis convaincu. Si je ne lui parle pas, peut-être c'est que je n'en suis pas si convaincu que ça, ou que je me dis, moi aussi, j'ai le temps. J'ai le temps de parler de Dieu à mon coiffeur. J'en parle, mais je ne veux pas qu'il me coupe les oreilles ou qui s'énerve avec moi, donc je témoigne, mais discret. Pas le forcer et qu'il soit... Et je parle pour moi-même. Hein. Ne croyez pas que je cherche à vous culpabiliser, le Seigneur me reprend. Quelques minutes, quelques instants, et bien souvent on est surpris par la réponse des gens à qui on parle de Dieu. Et là aussi, ça dépend de la façon dont on prie, de la façon dont on a relation avec Dieu. Si on est sensible à l'Esprit Saint, il va ouvrir des portes. Allez, à toi d'y aller. Oh, j'ai pas le temps. Mais le soir, je vais regarder les informations, puis je vais regarder la météo quand même pour savoir si je dois avoir un parapluie. Tiens, il y a une émission intéressante. Et puis, on arrive à faire nos 3h30 tous. On travaille dur pour ça, mais on y arrive. Hein. Alors, comment faire pour essayer de bien gérer notre temps? Première idée, c'est d'utiliser un papier et un crayon, d'utiliser un moyen plus moderne, électronique, votre ordinateur, votre téléphone intelligent. S'il était intelligent, il devrait vous dire « pense à Dieu ». Planifiez vos journées. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous vous dites « quelles sont les tâches que j'ai devant moi ?» Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins? Donc en planifiant vos journées, la deuxième idée, c'est d'établir des priorités. Il y a des choses qui sont temporelles. Peut-être vous marquez « faire mon jogging ». C'est bien. L'exercice physique est important, mais l'exercice spirituel est encore plus important. Il y a des choses qui sont temporelles et puis d'autres choses qui ont des conséquences éternelles. Est-ce que je marque dans mon emploi du temps le temps que je passe avec Dieu? Pourquoi pas? Que je le garde comme un rendez-vous que j'aurai avec un employeur, que j'aurai avec un médecin, avec mon kiné. Un autre conseil que donnait le pasteur qui a inspiré cette étude, toujours le pasteur de Lindsay, Manny Olivas, apprenez à dire non. Si vous êtes comme moi, j'ai beaucoup de mal à vous dire non. Est-ce qu'on peut se voir tel jour? Alors, ça ne veut pas dire que je ne veux pas vous voir, mais ça veut dire que je ne dois pas dire oui à toutes les sollicitations. Et là, je me retrouve à... J'ai déjà des livres qu'on est en train de traduire, que j'aimerais relire, que j'aimerais corriger. Mais il y a 2-3 semaines, j'ai un pasteur qui m'a dit « Tiens, je te passe ça, est-ce que tu peux le relire ?» Devinez qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit « Oui ». En plus, ça m'intéresse un peu. Et puis après, j'ai réalisé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais pas pouvoir le lire avant le retour du Seigneur? Probablement. Un autre conseil, c'est de faire tout ce que vous faites du mieux que vous le pouvez, comme si c'était pour Dieu lui-même. Pas faire du travail à moitié. Ma mère avait une expression que j'aimais bien, elle disait « c'est ni fait ni à faire ». C'est-à-dire que c'est dans un état lymphatique ou lymphique, je ne sais pas, c'est limbique, c'est rien, c'est, ça n'a pas de consistance. Ce n'est pas comme si tu dis « bon, ben, je vais commencer, je vais le faire ». Ce n'est pas comme si tu as commencé et tu as déjà accompli quelque chose. C'est dans un état lamentable. Si vous décidez, s'il y a quelque chose sur votre liste qui a une importance éternelle, alors faites-le du mieux que vous pouvez. Vous avez dit, je vais faire cette étude de l'Apocalypse. On vous donne des exercices à faire, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour vous forcer à prendre le temps d'étudier, de lire, de répondre aux questions, de réfléchir, de faire que la parole devienne... soit assimilée, de façon à ce que la parole soit ingérée. Ça aussi, c'est une autre discipline. Et puis, une dernière chose qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas très drôle, parce que souvent, elle nous montre combien nous gaspillons le temps dont nous ne savons pas combien il nous reste, même si normalement, nous avons 1440 minutes chaque jour. C'est de faire une évaluation de votre temps. Si vous avez un emploi du temps très chargé, c'est souvent assez simple à faire. Partez le matin à 7h, vous rentrez le soir à 19h, 20h. Donc ça, c'est le bloc de temps de travail. Peut-être le matin, vous vous levez un peu plus tôt, une demi-heure de... Et c'est essentiel lorsque vous avez beaucoup de temps à votre disposition. Si vous ne devez pas rendre des comptes, alors je parle par exemple aux gens qui sont en recherche de travail, aux gens qui sont missionnaires, c'est un grand défaut des missionnaires. Se dire, bon, mais tout ce que je fais, puisque je suis missionnaire, c'est spirituel, je prépare l'éternité. Non, on peut aussi perdre du temps devant la télé en tant que missionnaire, en tant que pasteur. Si vous êtes étudiant, comment est-ce que vous étudiez ? Est-ce que vous faites ce que j'ai dit ? Vous attendez le dernier moment pour commencer la thèse ? Là, il s'agit... Mais je travaille très bien sous pression. Il me faut la pression. Non, c'est parce que vous êtes feignant, que vous attendez le dernier moment, et que je suis feignant et que j'attends le dernier moment pour préparer mon serment. Ça, c'est quelques éléments. Mais vraiment, ce que nous devons faire, c'est venir devant le Seigneur et chaque jour lui demander de diriger notre emploi du temps, de nous donner ses priorités. Et puis à la fin de la journée, de faire le point, de voir un peu où on en est. Vous savez que c'est plus facile de corriger une déviation de cap quand vous avez pris un cap un peu erroné pendant 24 heures que de le faire au bout de 6 mois de traversée de l'Atlantique. Et en fait, vous réalisez que vous arrivez près de la Terre de Feu, que vous êtes allé trop vers le sud. Si vous ne voulez pas dériver, il faut avoir cette redevabilité avec Dieu. Et je vous conseille de le faire avec quelqu'un d'autre. Si c'est vraiment un problème, si vous avez du mal à gérer, à être des bons gestionnaires de votre temps, sachez que c'est une donnée essentielle dans votre vie de chrétien. Ça fera, à la fin du mois de mai, ça fera 20 ans que j'aurai quitté les États-Unis, mon travail, pour commencer une église. Dieu a permis dans sa grâce que pendant ces 20 ans, quelque chose soit réalisé. Mais je vous dis franchement, je me dis, si j'avais mieux utilisé mon temps aux choses éternelles, Dieu aurait pu m'utiliser beaucoup plus. Et c'est sur la durée qu'on voit combien il est important de gérer quotidiennement ces 218 euros. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que ta parole, elle est à double tranchant. Elle peut toucher celui qui l'entend, elle peut toucher celui qui la délivre, Seigneur. Et tu sais combien moi-même, j'ai besoin de ta grâce, de discipline personnelle avec ton aide, Seigneur. Pas de résolution, mais de discipline personnelle pour chaque jour bien gérer le temps que tu veux bien me confier, Seigneur. Et tu es ce maître qui va revenir, je ne sais pas quand, mais qui, s'il me trouve fidèle, va me bénir en me servant à sa table. Et qui, par contre, si j'ai procrastiné, si j'ai attendu plus tard, va se fâcher contre moi. Seigneur, merci de parler à chacun de cet usage du temps. Seigneur, je prie que entre nous, nous puissions nous tenir redevables l'un devant l'autre, que chacun puisse trouver une personne qui le reprenne lorsque nous gaspillons notre temps à des jeux électroniques, à la télévision, à des choses qui n'ont aucune valeur en fin de compte. Pardonne la procrastination, Seigneur, la paresse. Et Seigneur, aide-nous à changer. Que ta parole transforme nos vies, Seigneur. Que cet exemple, cette parabole de Jésus, elle nous interpelle vraiment. Merci pour cette ressource que tu nous confies, Seigneur. Aide-nous à la gérer avec ta sagesse, la sagesse d'en haut, Seigneur. Encourage chaque personne que tu vas le faire, Seigneur. Je ne veux surtout pas que nous partions de cette étude découragée et pessimiste, Seigneur. Ta parole est toute puissante et elle va accomplir l'effet pour lequel tu l'as envoyée. Sois béni pour cela, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.